le journal est présenté par Claire Flochel.
Bonjour à tous. L'hommage de la République aux victimes de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. Cérémonie silencieuse suivie de la Marseillaise ce matin. Un hommage sobre, sans discours ni prise de parole, comme le souhaitaient les familles de victimes. On rejoint Eva Jednak qui suit les commémorations dès le début de ce journal. La veille déjà, une journée pour raviver l'esprit Charlie était organisée dans un théâtre parisien. Un hommage au journal satirique, mais aussi à la liberté d'expression auquel a participé la journaliste et l'essayiste Caroline Fourest, vous l'entendrez. À l'étranger, 13 jeunes ont été abattus par un groupe armé en Casamance, une région sénégalaise où un conflit pour l'indépendance fait rage depuis 35 ans. On rejoindra notre correspondante sur place, Lou Garçon. Et puis on a appris la mort de France Gall ce matin. La chanteuse avait 70 ans. Elle était hospitalisée depuis le mois dernier pour des problèmes respiratoires. Résiste, il jouait du piano debout, Ella Ella. Autant de tubes qui ont traversé les époques et bercé les oreilles de plusieurs générations. On verra ça avec Yann Bertrand. Sans oublier, à 12h40, votre rendez-vous avec la face cachée du globe et Nabila Hamel. Journée de mémoire et de souvenirs ce dimanche, 3 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo. Il avait fait 12 morts le 7 janvier 2015. Les frères Kouachi avaient décimé la rédaction du journal avant d'abattre un policier dans la rue. Emmanuel Macron s'est rendu tout à l'heure devant les anciens locaux de l'hebdomadaire dans le 11e arrondissement de Paris. Le chef de l'État a ensuite rendu hommage aux victimes de la prise d'otage de l'Hyper Cacher de la Porte de Vincennes. 4 personnes avaient été tuées par Hamedi Coulibaly 2 jours après l'attentat de Charlie Hebdo. C'est là où vous trouvez, Eva Jednak, la cérémonie vient de se terminer.
Oui, une cérémonie dont le silence est la retenue selon le souhait des familles. Le souhait donc d'une cérémonie sobre, uniquement en présence des proches, des membres de la rédaction de Charlie Hebdo et de quelques officiels. Le président Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, la maire de Paris, les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Culture. Alors les noms des victimes ont d'abord été égrenés avant le dépôt d'une gerbe et 1 minute de silence. Puis la Marseillaise a résonné pendant quelques instants, le même déroulé que ce matin devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, puis boulevard Richard Lenoir devant la fresque en hommage à Ahmed Merabé, le policier tué. La cérémonie ici vient de se terminer. Il y a encore un large périmètre de sécurité qui devrait être levé d'ici quelques minutes. La centaine de riverains venus suivre la cérémonie vont pouvoir se recueillir à leur tour devant la plaque commémorative.
Merci Eva Jednak, en direct dans le 20e arrondissement de Paris, à côté du magasin Hyper Cacher. Un dernier hommage aura lieu demain à Montrouge, près de Paris, là où une policière avait été tuée. Une cérémonie en présence de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui représentera Emmanuel Macron. Alors en déplacement en Chine, on y revient dans un instant, les attentats de janvier 2015 ont fait 17 victimes. Avant les cérémonies officielles aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes ont également participé hier à une journée de débats et de concerts baptisée « Toujours Charlie ». Une journée organisée aux Folies Bergères à Paris par le Printemps Républicain et la LICRA. La journaliste Caroline Fourest était présente. L'occasion pour elle de défendre les valeurs de la laïcité et de la liberté d'expression. Le vrai enjeu du débat public aujourd'hui, dit-elle, est de faire admettre que rire de la religion n'est pas raciste.
Même le minimum, c'est-à-dire défendre la liberté d'expression et le droit de rire des religions et des intégristes, est encore très attaqué. Avant l'attentat du 7 janvier, on pouvait encore tolérer, supporter, on essayait en tout cas, les procès d'intention, les amalgames entre laïcs et racistes, les chasses aux sorcières en islamophobie contre des gens qui sont absolument antiracistes et simplement attachés à la laïcité. Mais après, c'est devenu insoutenable. Et malheureusement, ce sont des procès d'intention qui ont repris. Il y a de plus en plus de gens vigilants qui comprennent ces enjeux. Il y a de plus en plus de gens courageux. Maintenant que quelques voix dissonantes, que quelques universitaires hargneux, haineux, malhonnêtes, essaient de faire en sorte que la jeunesse ne comprenne toujours pas la différence entre droit au blasphème et racisme, ou laïcité et islamophobie, mais c'est leur responsabilité. Ils entretiennent des confusions qui sont des confusions mortifères et il est temps d'arrêter. C'est juste impardonnable. Si on se met pas tous ensemble pour essayer de clarifier ces enjeux et d'expliquer à la génération qui vient pourquoi il faut arrêter de penser que quand on défend la laïcité ou le droit de blasphémer, que ça n'est pas de l'incitation à la haine, mais au contraire, c'est une défense du vivre ensemble et du fait de faire société. Et si on se met pas tous à leur dire, faut pas s'étonner que ça ne soit pas entendu.
La journaliste et essayiste Caroline Fourest au micro de Louis-Valentin Lopez. Je vous le disais, Emmanuel Macron s'envole tout à l'heure pour la Chine, juste après les commémorations des attentats. C'est le premier déplacement en Asie du président de la République, Julie-Marie Lecomte.
À l'Élysée, on fait un parallèle. Avec Emmanuel Macron, le contexte a changé en France et le 19e congrès du Parti communiste l'automne dernier a validé la volonté de son président de faire entrer la Chine dans une ère nouvelle. Emmanuel Macron est aussi le premier chef d'État européen à se rendre à Pékin depuis la réélection de Xi Jinping. Le rendez-vous est présenté comme celui de deux réformateurs qui portent chacun une vision ambitieuse pour leur pays. Emmanuel Macron a déjà vu l'homme fort de Pékin en marge du G20 à Hambourg. Il s'agit maintenant, explique-t-on, de développer leurs relations personnelles et politiques. En matière de lutte contre le réchauffement climatique, le premier pollueur au monde qui veut faire des efforts est plus incontournable que jamais depuis le faux bond américain. La Chine a également un rôle clé, notamment dans le dossier nord-coréen. Emmanuel Macron entend aussi aborder le problème de la réciprocité des échanges commerciaux. Il reste compliqué d'accéder au marché chinois, ce qui n'empêche pas Paris, mais c'est un classique, de laisser entrevoir une moisson exceptionnelle d'accords et de contrats.
Je lis Marie Lecomte. Un regain de violence inattendu hier au Sénégal, en Casamance, une région du sud du pays où une rébellion est active depuis 35 ans. 13 jeunes qui coupaient du bois dans une forêt ont été tués par une bande armée. Un massacre intervenu au lendemain de la libération par les autorités sénégalaises de deux membres de la rébellion casamançaise. La correspondance au Sénégal de Lou Garçon.
Impossible de dire pour le moment si les assaillants font ou non partie de la rébellion casamançaise du MFDC, un mouvement hétéroclite avec plusieurs factions. Les autorités sénégalaises parlent de bandes armées et d'actes délibérés contre des civils sans défense. L'armée explique que les victimes étaient venues couper du bois dans une zone où le MFDC a certes des bases, mais où des villageois avaient également promis de se faire justice eux-mêmes en cas de coupe illégale des ressources de la forêt. Ce drame intervient alors que beaucoup au Sénégal nourrissent l'espoir d'une paix définitive en Casamance, en proie à un conflit depuis plus de 30 ans. Depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, Macky Sall, le conflit connaît une accalmie. Ces dernières semaines, un nouveau round de négociations a eu lieu entre les autorités et les indépendantistes. Deux membres de la rébellion ont d'ailleurs été relâchés par l'État du Sénégal début janvier. La communauté religieuse en charge de la médiation parlait alors d'un nouveau pas vers la fin du conflit. Beaucoup se demandent à présent si ce massacre, le premier depuis plusieurs années dans la région casamançaise, aura un impact sur le processus de paix.
Lou Garçon, correspondante de France Culture au Sénégal. Une nouvelle page se tourne dans la chanson française. Après Johnny, le mois dernier, c'est la chanteuse France Gall qui s'en est allée, emportée par le cancer à l'âge de 70 ans. France Gall, inoubliable interprète de Serge Gainsbourg dans les années 60 et surtout de Michel Berger. Yann Bertrand.
Au temps des yéyés, France Gall, 16 ans, place son premier tube « Ne sois pas si bête » dans le classement de « Salut les copains » dès 1963.
Ne t'en fais pas, ne crains rien de moi.
Enfant de la balle, famille d'artistes, la jeune femme trouve en Serge Gainsbourg une plume inépuisable qui lui offre poupée de cire, poupée de son, couronnée à l'Eurovision en 1965, et puis un titre des plus ambigus. Le creux de la vague vient assez tôt jusqu'à cette rencontre qui change sa vie dès 1974 et pendant presque 20 ans jusqu'à sa mort en 92. Michel Berger lui offre une litanie de succès à peine croyable.
Et je m'étais même dit, ce sera lui, et si c'est pas lui, ben ce sera personne.
Il jouait du piano debout, elle a des branches.
Viens, je t'emmène, si maman si.
Tant France Gall avait arrêté la chanson, de moins en moins présente dans les médias, sauf en 2014 pour présenter sa comédie musicale Résiste, un hommage à sa vie, ses amours, au talent de Michel Berger. L'occasion, en coulisses, de retrouver un public qui l'a toujours aimé.
Résiste.
Reportage signé Yann Bertrand. Midi 39 sur France Culture, la face cachée du globe, c'est avec vous Nabila Hamel. Bonjour Nabila.
Bonjour Claire. S'il a bien rendu visite vendredi à l'opposant Morgan Tsvangirai, le nouveau président du Zimbabwe a exclu la formation d'un gouvernement de coalition. Le gouvernement colombien et les FARC ne feront pas le même bilan du processus de paix signé en novembre 2016. Les leaders de l'ex-guérilla se disent insatisfaits et désenchantés, notamment de la juridiction spéciale de paix qui ne serait plus conforme, disent-ils, au texte initial signé par les deux parties. Nettement plus optimiste, le président Santos serait réjouit des bases institutionnelles et normatives posées et parle d'avancées déterminées vers la construction de la paix. Le géant pétrolier saoudien Aramco est devenu le 1er janvier une société par action. Riyad prévoit la cession d'au moins 5% de la compagnie via une introduction en bourse au second semestre 2018. L'opération devrait générer d'importants revenus jusqu'à 100 milliards de dollars pour l'Arabie saoudite, confrontée à des difficultés économiques en raison de la baisse des cours du brut. Une première halte en Éthiopie où le chef du gouvernement a annoncé mercredi une prochaine libération de prisonniers, notamment des figures politiques. Clélie Nallet, vous êtes chercheuse à l'IFRI, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Comment interprétez-vous cette déclaration de la part d'un pays qui a souvent été épinglé pour la répression de ses opposants et ses violations de droits de l'homme?
Elle est clairement inédite. Déjà, elle reconnaît implicitement l'existence de prisonniers politiques en Éthiopie. Pour l'heure, on ne sait pas quelle forme vont prendre ces amnisties. Il faut donc rester très prudent.
Alors, combien de personnes peuvent être concernées par ces libérations? Ou du moins, est-ce que l'on a une idée déjà du nombre de prisonniers politiques en Éthiopie?
Alors, depuis 2015, on assiste à une vague massive de manifestations. On parle à partir de 2015 donc d'au moins un millier de morts et de dizaines de milliers d'arrestations. Pour l'instant, on peut se demander est-ce qu'ils vont commencer par des libérations symboliques en libérant des figures fortes de l'opposition, Merera Gudina par exemple pour le côté Oromo, ou est-ce qu'ils vont procéder à une vague de libération plus massive? Les cas de torture et de mauvais traitements vont-ils être l'objet de véritables enquêtes et de traductions en justice? C'est d'ores et déjà la question que pose Amnesty International.
Vous en parliez, l'Éthiopie a connu ces deux dernières années des soulèvements, notamment de la communauté Oromo, et a réprimé toute forme de contestation. L'état d'urgence a été levé en août dernier, mais la crise semble toujours là.
L'idée de cet état d'urgence, c'était de reprendre en main la situation sécuritaire du pays, mais aussi de conduire des réformes, notamment sociales. Et l'état d'urgence s'est surtout traduit par un durcissement de l'appareil sécuritaire. On peut dire que l'Éthiopie connaît actuellement une crise multiforme, une crise au sein même de la coalition au pouvoir et du front de libération tigréen. Il y a aussi évidemment la question très importante et très ancienne des différents peuples et nationalités éthiopiens, à laquelle le gouvernement a répondu par le système de fédéralisme ethnique. Le régime ethno-fédéral n'a pas conduit à un partage équitable du pouvoir. Les leviers économiques, politique et sécuritaire demeure largement contrôlée par le Front de Libération Tigréen. Vous parliez des Oromo, ils représentent plus du tiers de la population et ils se considèrent aujourd'hui toujours comme des citoyens de seconde zone. Enfin, le pays connaît des taux de croissance impressionnants qui avoisinent les 10%, mais dont une large partie de la population ne bénéficie pas.
Clélie Nallet, spécialiste de la Corne de l'Afrique, à l'IFRI. La justice norvégienne a débouté jeudi Greenpeace et deux ONG opposées à l'attribution par Oslo de licences pétrolières dans l'Arctique. Greenpeace avait assigné la Norvège, mais la judiciarisation de plus en plus fréquente des questions climatiques se heurte souvent aux intérêts des pays. Pour ce qui nous concerne, il s'agit de la Norvège, gros producteur de gaz et de pétrole. C'est une correspondance de Grégory Tervel à Oslo.
Les trois organisations écologistes à l'origine du procès, dont Greenpeace, demandaient l'annulation de la décision gouvernementale d'attribuer 10 nouvelles licences d'exploitation en mer de Barents dans la région arctique. Selon elle, la poursuite de l'exploitation pétrolière et gazière du pays va à l'encontre d'une nouvelle disposition de la constitution norvégienne qui garantit à chaque citoyen un droit à un environnement sain, à l'encontre aussi des accords de Paris sur le climat dont la Norvège a été l'un des premiers pays signataires. Le tribunal d'Oslo a rejeté cette demande en estimant que ces textes certes obligent le gouvernement norvégien à prendre des mesures pour garantir un environnement de qualité, y compris aux générations futures, mais qu'il n'empêche nullement d'exploiter aussi les ressources du sous-sol. Les organisations écologistes ont réussi une belle opération de communication avec ce procès du climat, comme l'ont surnommé les médias norvégiens. Une opération un peu coûteuse toutefois, le tribunal les a condamnés à rembourser les frais de justice de l'État norvégien, qui s'élèvent à 60 000 euros.
Les organisations écologiques pourraient faire appel de ce jugement auprès de la justice norvégienne. Et puis à signaler que l'administration Trump a proposé jeudi d'autoriser les forages pétroliers et gaziers au large de toutes les côtes américaines ou presque, une mesure qui enterre les dispositions prises en fin de mandat par Barack Obama pour protéger les zones baignées par les océans Arctique, Atlantique et Pacifique. À dimanche prochain.
Merci Nabila Hamel. La face cachée du globe est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo de ce dimanche, il faut encore se couvrir cet après-midi. La pluie est au menu dans le sud, mais aussi dans une bonne partie ouest des pays de la Loire aux Hauts-de-France. 15 départements sont toujours en vigilance orange en raison des risques d'inondation. L'Hérault en vigilance orange aux fortes pluies. Et les températures 3 à 12 degrés cet après-midi et de 16 à 18 degrés de la Méditerranée à la Corse. 3 à Lille, 6 degrés à Paris, 9 à Dijon, 11 à Bordeaux, 18 degrés à Ajaccio. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Martin Descloseaux. À la technique, c'était Pierrick Monsigny.